Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, est-ce que tu pourrais me dire qui tu es ?
Salut. Alors moi, mon nom d'artiste et mon nom de la vie de tous les jours, c'est Maroc. Je suis tourneur sur bois, ébéniste, et mon atelier se trouve à La Griotte.
On te connaît aussi sous le nom de Jambes de Bois. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Bien sûr. Alors Jambes de Bois, c'est mon petit nom d'entreprise. Donc Jambes de Bois, pour moi, c'est le petit côté pirate qu'on a tous en nous. Et que jambes de bois, parce que peut-être qu'un jour je perdrai une jambe, on ne sait pas pourquoi, peut-être à cause d'une batte, à cause d'une scie à ruban, à cause de plein de choses, mais que je pourrais me tourner ma petite jambe de bois.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est ton métier de manière plus élaborée ?
Alors, mon métier, c'est de partir de plateaux de bois, vraiment brut, de déligner, de débiter pour ensuite pouvoir faire de la vaisselle parce que je fais de la vaisselle, qu'aujourd'hui j'expose aux agités du local. Donc ça va être aussi bien des saladiers que des bols, des assiettes, des couverts à salade, des planches à découper, des mortiers pilons. Enfin bon, il y a vraiment plein de possibilités à tourner. Des boîtes, en ce moment j'en fais pas exceptionnellement, mais je peux en faire. Je fais aussi des luminaires que les auditeurs ne peuvent pas voir, mais que vous pouvez voir, avec des défauts, avec et moi je me sers de ça aussi, parce que ça rajoute un peu de beauté dans l'objet. Je fais aussi des battes de baseball, et aussi des demandes particulières de clients, que ça peut être aussi de l'ébénisterie, aussi bien des tables que des chaises, que voilà, vraiment, j'ai un panel, je pense, assez large. Et que après je fais de la création personnelle, mais j'aime bien aussi qu'on me donne des directives pour pouvoir faire du travail un peu dirigé.
Donc c'est quoi ton parcours précisément ? Quelle formation as-tu suivi ?
Alors moi à la base je suis prothésiste dentaire, donc rien à voir. Vraiment après le lycée, on m'a un peu dirigé sur cette voie que je n'avais pas choisie. Et au fil des années, je me suis rendu compte que il fallait choisir, qu'on commençait à se connaître avec le temps, et que j'ai décidé de me reconvertir en CAP ébéniste en un an pour formation pour adultes. Et de là, j'ai découvert un peu tout l'univers du bois, ses odeurs, sa poussière, l'amour que je pouvais avoir pour ce matériau, et qui m'a permis vraiment de faire de la création. Et que du coup, suite à ce CAP, j'ai été autodidacte en tournage sur bois. Un pote un jour qui m'a fait découvrir le tournage sur bois sur un petit tour avec quelques petits conseils. Et après, j'ai tout appris tout seul. Je me suis payé une petite formation de 4 jours dans une école qui s'appelle l'école Escoulin, qui se trouve dans les Gorges du Verdon, à Éguines. Et c'était vraiment le B.A.B.A. que j'ai suivi pour voir si je partais pas n'importe où, en fait, histoire d'avoir vraiment les bases et de pouvoir continuer. Donc, du coup, j'apprends encore tous les jours. Et c'est ça que j'aime bien dans le métier de tournage sur bois, c'est que tu rencontres des vieux, tu rencontres des jeunes, tu apprends de tout le monde. Aussi bien les vieux, ils vont te donner des petites connaissances, que des jeunes peuvent te faire découvrir des choses que tu n'avais pas du tout imaginées. Et du coup, c'est voilà, mon petit parcours à l'heure actuelle, c'est ça.
Quel lieu de travail précisément tu utilises et quel matériel surtout ?
Alors, les différentes essences de bois que je vais utiliser, ça va être des bois de la région. Donc, ce qu'on va trouver, ça va être du frêne, ça va être du noyer beaucoup, ça va être du chêne, du hêtre, du buis et après du merisier aussi. Donc, moi, je vais direct en Syrie chercher mon bois. On ne parle pas du pays. On parle vraiment de l'endroit où on coupe les arbres, où on débite. Moi, je vais jusqu'à Saint-Marcelin, puisque là-bas, il y a une scierie qui est intéressante au niveau des essences qu'ils ont, que c'est du bois sec, puisqu'on peut tourner du bois vert. Le bois vert, c'est essentiellement du bois qui est encore humide, qui a été coupé récemment, mais que du coup, quand on le tourne, on a les aléas du bois qui est encore en train de sécher, encore en train de se déformer. et que moi, pour toute la vaisselle que je propose, j'ai besoin de bois sec. Donc c'est pour ça que je vais en Syrie avec du bois qui a été séché dans les bonnes conditions. Et aussi pour les battes de baseball que je fais, j'ai pas le droit à la déformation, j'ai pas le droit à ce que le bois y fende, parce que sinon après, bah, ça peut faire des défauts, notamment quand on tape une balle, si on a une batte qui est fendue, la balle ne va pas dans le bon sens. Qu'un saladier ou une assiette qui est tournée, qui est plate, si elle se déforme et qu'elle remonte vers le haut, eh ben, c'est pas ce qu'attend le client non plus. Donc moi, je tourne avec du bois sec et que je suis allé chercher en Syrie directement. Donc mon lieu de travail, c'est à la Griotte. C'est un petit atelier que j'ai depuis 2 ans. Avant, j'étais aux ateliers du chemin de fer. Mais que là, je suis un peu passé dans la cour des grands, on va dire. Que c'est vraiment la Griotte, un lieu où il y a 18 artisans artisanes avec des entreprises qui sont là depuis plusieurs années. Et du coup, moi, pour moi, ça m'a fait un peu monter de gamme, on peut dire. Moi, ça m'a permis de créer mon entreprise depuis que je suis à la Griotte. Ça faisait 6 ans que je tournais tout seul dans des caves et que là, ça m'a permis de passer un peu en professionnel un peu plus développé.
Moi, je voulais savoir par rapport au bois, est-ce qu'il y a des bois que tu utilises pour certains objets plus que d'autres, en fonction de leurs caractéristiques, leur légèreté par exemple ou...
Alors, au niveau des bois, je vais vraiment utiliser toutes les essences que j'ai dit, je vais les utiliser dans tous les objets que je fais. Après, y a certains bois qui vont être comme le chêne avec du tanin. Du coup, ça va être plus. Dès qu'il va y avoir un coup de couteau dedans avec de l'eau, ça va noircir. Donc, ça, par exemple, je vais l'éviter pour tout ce qui est planche à découper, mais que je vais m'en servir pour des battes de baseball, par exemple, puisqu'il n'y a pas de coup de couteau dedans. La plupart des bois que j'utilise, vraiment, je les utilise pour tous les objets que je fais. Après, il y a même des morceaux de bois que des amis me ramènent, genre de l'olivier par exemple, et que ça va être des morceaux que je vais garder pour des petits bijoux, pour certains petits objets où on voit le veinage et que c'est plus joli, plus esthétique. Après, niveau du bois, de temps en temps, on va me ramener des bois exotiques aussi, mais ça, je ne l'achète pas parce que ça fait partie de la déforestation. Et que moi, je ne suis pas pour la déforestation, je suis vraiment pour utiliser tous les bois qu'on a dans le coin, sachant qu'on en a une quantité déjà assez grande, pas besoin d'aller chercher à l'autre bout de la terre pour aller trouver, par exemple, de l'ébène. Moi, j'ai un petit peu d'ébène, mais c'est un vieux qui est mort, et du coup, j'ai récupéré des petits morceaux de bois chez lui. C'est vraiment de la récup, quoi. De la récup et de l'achat pour certaines pièces.
Est-ce que tu as des bois qui sont plus difficiles que d'autres à utiliser ou à tourner
Et moi, ça dépend vraiment. Tout bois est différent. La même essence peut avoir un veinage différent. Par exemple, le frêne, je me suis rendu compte que c'était très joli, très beau, mais que tu avais une densité qui pouvait changer vraiment d'un tronc à l'autre, du sol dans lequel il a poussé, de la fibre, du bois qui va être plus serré, qui va être plus dense. Donc, de temps en temps, même le buis, on a l'impression que c'est très dur. Et au final, quand tu le tournes, c'est vraiment très tendre si tu as vraiment ton outil qui est affûté comme il faut. Je vais dire que je travaille toutes les essences de bois, aussi bien qu'elles soient compliquées, moins compliquées. Il y en a qui sont effectivement plus faciles à travailler, telles que le hêtre, telles que... qu'est-ce que j'ai ? Le noyer, par exemple. Moi, j'aime bien travailler le noyer, puisque c'est un bois qui est assez cool à tourner et aussi que tu as le veinage qui apparaît au fur et à mesure, que le noyer, tu as vraiment un dessin qui est atypique au noyer et qui est cool.
Je voulais que tu me dises, quelle est ta journée type ?
Alors ma journée type, c'est je dépose mon enfant à l'école à 8h30, du coup 8h45 pétante, je suis à l'atelier, un petit café, on allume la radio sur RDWA 107.5 et après... J'enchaîne sur un débit de plateau, histoire d'avoir mes petites planches, mes petits morceaux de bois pré-tournés, donc que je vais découper à la scie à ruban, que je peux aussi dégauchir avec la dégauchisseuse. Après, une fois que j'ai mes formes qui sont pré-formées, je vais passer sur le tour à bois. Donc là, je vais donner ma forme extérieure de mes objets. Tout ça, ça va être pendant toute une matinée. Après, ma petite pause de midi, bien sûr, en express. Et l'après-midi, je continue et je débite mes pièces, je les tourne. J'arrive sur une petite finalité de quelques petites pièces, Donc ça peut être aussi bien une batte de baseball, trois bols et un saladier dans une journée, que ça peut être aussi quatre assiettes, deux bols, ça peut vraiment varier, trois planches à découper. Ça dépend un peu de, bon, bah déjà comment il est mon mental aujourd'hui, puisqu'il y a des moments où tu n'as pas le mental pour travailler, et du coup tu es plus dans la réflexion, d'imaginer des pièces, dessiner. Ces derniers temps, je me lance pas mal dans la machine laser aussi. Genre faire des petits tableaux avec des photos, donc ça me permet d'avoir des petits temps morts au niveau du tournage sur bois, mais que je consacre à d'autres créations. Et après, ma journée type se termine à 16h30 parce qu'il faut aller rechercher l'enfant. Et sinon, quand l'enfant est gardé par d'autres, moi je peux rester jusqu'à 18-20h et là je continue à créer jusqu'au bout en ayant de la poussière jusqu'au fond des narines. Voilà, c'est un peu mon quotidien ça.
Ça t'arrive jamais de travailler pendant la nuit ?
Malheureusement, à la griotte, c'est un lieu de vie aussi, il y a des gens qui habitent. Donc je ne peux pas me permettre de travailler la nuit, sachant que les machines font beaucoup de bruit. Quand je tourne, il y a des aspirations qui font un peu trembler les murs, des scies à ruban qui ont des bruits très aigus. Le tour ne fait pas tant de bruit que ça, mais quand même pour certaines personnes qui dorment sur les lieux, on respecte les voisins la nuit. Après, ça serait un peu quand même mon petit rêve d'avoir mon atelier en bas de chez moi et de pouvoir y aller quand tu as une idée, quand tu as une impulsion, de pouvoir continuer ce que tu as à faire la nuit.
Je veux savoir combien de temps tu mets pour faire une batte de A à Z ?
Alors, une batte de A à Z, je vais partir sur des carrelés. En gros, je vais mettre à peu près 3 heures de temps. Après, ça, je te parle vraiment d'une batte lambda. Là, ces derniers temps, je me suis amusé à faire de l'imprimante laser dessus avec des petits dessins sélectionnés. Et ça, tu peux rajouter 3 heures de temps en plus suivant les dessins. Donc, ça peut varier entre, allez, on va dire, pour des petites 2h30 et 6 heures de temps pour suivant les pièces exercées. Et que ces derniers temps, j'ai aussi envie d'essayer, puisque je fais un petit peu de résine avec le bois. J'ai encore jamais essayé sur les battes. Mais essayer du bois mélangé à de la résine, et ça serait encore un peu plus de temps, puisque tu as le temps de prise, suivant les défauts de ton bois, il faut que tu viennes les coller, tu as un temps de séchage, tu vois. C'est un temps de base, si vraiment tu pars d'un carrelé qui est beau, qui est brut, tu vas avoir 2h30, 6h de temps suivant tes réalisations, et par contre si tu dois faire des collages de différentes essences, là tu peux rajouter le temps de séchage de ta colle, et du coup ça peut vite monter à 24 heures puisqu'il faut attendre que ta colle sèche et tu réattaques derrière. Mais c'est jamais du temps perdu puisque tu as toujours d'autres pièces à tourner en attendant ou à préparer.
Qu'est-ce que tu trouves simple et difficile dans ton travail ?
Alors difficile, c'est de savoir que c'est un métier où en fait tu t'abîmes le corps. Ça, c'est un côté difficile, dans le sens que tu te dis que c'est un métier passion, que tu passes du temps, tu passes de l'amour, mais que derrière, tu t'abîmes la santé. Même si avec le temps, on investit dans des aspirations, on investit dans du matos un peu plus sophistiqué pour aspirer tout ça, mais que malheureusement, le travail tue. Et que simple, qu'est-ce que simple ? Rien vraiment de simple. Ce que on va plus dire, ce que j'aime, ça serait de partir vraiment d'une branche brute et d'arriver à un objet fini à la fin et qui a été sculpté dans du brut, quoi, et qui ressort lisse, que tu as envie de caresser avec ta joue.
C'est-à-dire, tu t'abîmes la santé, c'est quoi qui t'abîme la santé dans le travail ?
Alors, le truc de base, comme n'importe quel travail, ça va être les postures. Parce que c'est quand même un métier où je vais pouvoir passer, comme j'ai dit, ça va être 3h30 le matin, 3h30, 4h l'après-midi, dans des positions fixes, avec des à-coups dans les bras, des vibrations, et puis aussi surtout la poussière. Parce que le bois que je fais avec mes outils, ça fait des jolis copeaux, mais ça fait aussi plein de micro-poussières, et on parle vraiment de poussière micron, et donc des vraiment particules très fines et qui sont volatiles dans l'atelier, qui vont se reposer plusieurs heures après, qui vont se relever. Enfin bon, en gros, là, vous êtes rentré dans mon atelier, vous avez sûrement respiré déjà peut-être 100 grammes de poussière de bois. Donc, ce qui n'est pas néfaste dans une journée, mais qui, au fil des années, encombre les voies respiratoires.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5,
101.7 FM.
Et où est-ce qu'on peut trouver ton travail ?
Alors mon travail, on peut le trouver aux Agités du local, avec 16 autres artisanes qui se trouvent rue de la Mêlerie. Là, c'est là où j'expose tout ce qui est vaisselle. Et après, à côté, j'ai une expo depuis maintenant une semaine dans un nouveau lieu qui a ouvert, qui s'appelle le Baraki, qui est tenu par des amis et qui est un bar à vin. Et qui m'ont proposé, il y a de ça 2 mois, de créer une expo de batte de baseball spécialement pour eux, pour leur ouverture, et sur 2 mois d'expo. Donc là-bas, j'ai mes battes de baseball et la vaisselle aux agités du local.
Et comment tu fais pour le mettre en valeur, ton travail ?
Alors, comment je fais pour mettre en valeur mon travail ? Ça va être, par exemple, avec une expo. Ça m'a montré qu'en faisant des expositions, tu prenais vraiment le temps de préparer ton travail, de peaufiner jusqu'au bout, de notamment le présenter au public. Et tu fais vraiment attention à ta présentation. Et après, moi, je pense que du fait que avant j'étais prothésiste dentaire, il y a une petite finition, une minutie qui me suit, et on va dire des formations professionnelles, et que du coup, je vais vraiment accentuer sur la douceur de l'objet, le huiler vraiment comme il faut, parce que du coup, un objet que je vais commencer, ça va être, je vais le creuser avec des gouges à creuser, à profiler, et après, je vais poncer, et par-dessus, lustrer et huiler. Et du coup, ça va me permettre d'avoir des objets qui sont beaux à la vue et au toucher.
Moi, je voulais en savoir un peu plus sur tes inspirations, parce qu'on a pu voir, par exemple, sur ton Instagram, des battes avec des symboles. C'est engagé, par exemple.
Ouais, carrément, bonne question. Moi, c'est mon inspiration, ça a été le bois, donc on peut parler de la nature. Donc on a pu voir que sur une batte, j'ai fait une batte champêtre, parce que le bois vient de la nature. Après, que moi j'ai une grosse influence, urbaine du hip-hop, notamment sur Radio Diwa, avec les amis, on a tenu une émission hip-hop, donc ça, j'ai pas mal bercé là-dedans. Et aussi antifasciste, parce que dans mes jeunes années, j'ai fait partie d'un groupe antifasciste, et que tout ça pour moi, ça a fait un peu qui je suis aujourd'hui. Le milieu punk aussi, ça m'a bercé, donc ça a fait des influences. Donc quand on parle de batte de baseball, effectivement, les gens directs voient la violence. Pour moi, c'est d'abord un jeu, mais que ça fait partie aussi de tout un milieu urbain qui a été détourné et que il faut l'assumer. Et aujourd'hui, oui, je l'assume totalement. C'est un jeu, mais qui a été influencé par qui je suis aujourd'hui. Et que je crois que mes influences sont là-dedans aujourd'hui. Et aussi, je mets beaucoup le doigt sur les petits voyages que j'ai fait jeune, qui m'ont construit et qui m'ont fait voir d'autres cultures et montrer qu'en fait, il n'y a pas une culture unique de Français. Ça, aujourd'hui, en 2024, ce n'est pas possible. Donc ce que je mets dans ma petite page sur l'expo, là où je me présente, c'est aussi mon art n'a pas de frontières. Parce que, en fait, le tournage sur bois, j'habite au Maroc, donc j'ai vu des artisans qui étaient en train de tourner le bois avec leurs pieds. Et tout ça, tu regardes, tu bugs quand t'es minot, et que, en fait, avec le temps, ça reste dans la tête et ça te fait grandir là-dessus, quoi. Pourquoi ça m'inspire ? Pourquoi ça m'inspire ? Parce que toute forme, toute la vaisselle, par exemple la vaisselle tournée, ça devient de nombreuses tribus, aussi bien africaines que amazoniennes, que asiatiques, que toute la vaisselle tournée en bois, ça vient de partout, notamment aussi on peut dire des vikings, tout ça c'est des cultures différentes et que en fait ça permet d'avoir des formes qui inspirent. Ça peut aussi donner des inspirations. Qu'est-ce qui peut m'inspirer d'autre ? Si, par exemple, ces derniers temps, sur tout ce qui est mes images laser, je vais chercher tout ce qui est dans la culture hip-hop, punk, et aussi révolte urbaine ou populaire, notamment les révoltes féministes. Ça me parle. Du coup, je vais essayer de les mettre en dessin sur des battes de baseball, sur des petits tableaux. Je fais aussi une petite collab avec la mère de ma fille sur, sur du bois que je vais préparer et elle va sérigraphier dessus. Donc voilà, après c'est aussi faire des mélanges, ça m'intéresse énormément, les différentes alliances entre différents métiers, entre la sérigraphie et le bois, entre la coutellerie qui va faire du métal et des manches en bois. Là, ces derniers temps, il y a une copine qui fait des suspensions en plantes et elle m'a demandé si je pouvais pas lui tourner, par exemple, un réceptacle pour qu'elle puisse venir mettre des plantes dedans. Enfin bon, voilà, c'est un peu tous les gens, tout le milieu de chacun qui va influencer à chaque fois tous les artistes et artisans.
Moi, ce que je vais te demander, c'est que tu nous as un peu parlé de ton parcours et on voit que tu t'es forgé avec tes expériences, avec le temps. Et je me demandais si tu pensais avoir trouvé ta voie.
Alors, ma voix, j'ai envie de dire, est-ce qu'on la trouve vraiment à un moment donné? Je pense pas. En tout cas, moi, à l'heure actuelle, c'est une voix qui me convient énormément. Le bois, parce que ça permet aussi bien d'avoir des temps où tu es dans la réflexion, des temps où tu es dans la sculpture, des temps où tu es dans le tournage, où tu es vraiment concentré et focus dessus. Et je pense que chaque personne aurait besoin à un moment donné d'être focus sur une chose pour pouvoir après se consacrer à d'autres choses, des personnes, des gens. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé en étant prothésiste dentaire, en ayant eu des petits boulots à droite à gauche, et que je sais très bien qu'aujourd'hui, si je dois avoir un petit peu de sous pour manger, j'irai faire n'importe quel boulot, c'est pas ça qui va me faire une barrière, mais qu'il faut quand même avoir un minimum de passion. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé une petite passion dans le bois, et par contre, ce que j'ai peur à l'heure actuelle et en étant passé professionnel, c'est de perdre ce côté passion, du fait que ce soit un travail qui ramène des sous et de devoir toujours créer par rapport à la demande et de se perdre un peu là-dedans. Ça, c'est une de mes craintes. Après, comme beaucoup de personnes qui créent leur entreprise, il y a toujours des craintes qui arrivent et c'est comment on peut passer au-dessus.
Et dernière question, pourquoi crées-tu des battes et quel est le profil type de tes acheteurs?
Alors, pourquoi je crée des battes? Parce que moi, déjà, vraiment, dans un premier temps, ça a été pour moi. Vraiment, la première batte que j'ai créée, c'était pour moi, parce que c'est un objet que je trouve beau. Comme il y a des gens, ils vont dire un couteau, c'est beau, un saladier, c'est beau. Moi, je trouve que les battes, c'est beau comme objet. Tu pars d'un morceau de bois brut qui est carré, tu ne devines pas le dessin de ton bois, et que c'est une section qui peut faire 80 cm. Donc, il faut imaginer que sur un tour, c'est long, tu peux avoir des vibrations, ça demande une certaine dextérité, de souplesse, et que tu as vraiment le dessin du bois qui se dessine au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me fait énormément plaisir. Que après, comme j'ai pu dire plus tôt, j'ai fait partie de groupes qui ont pu être militants et politisés pour l'humain. Et que malheureusement, de temps en temps, dans ma vie, je me suis retrouvé face à de la violence. Que de la violence, aujourd'hui, ne me fait pas peur, ou du moins, je suis OK avec ça. Et que la batte de baseball est un jeu. N'oublions pas que nous sommes des grands enfants et que nous devons continuer à jouer. Mais qu'aujourd'hui, le gouvernement a réussi à mettre de la politique dans notre travail, dans notre vie de tous les jours, dans le moindre petit jeu, dans la moindre petite éducation de notre enfant. Et donc, moi, j'en arrive à faire mon artisanat quelque chose de politique. Et que, on peut le voir sur mes inspirations, sur mes petits tableaux et aussi sur mes battes de baseball qui peuvent être un jeu, mais qui peuvent aussi basculer dans la politique aujourd'hui.
Une anecdote, un mot de la fin pour finir?
Ah, aussi, donc ça je vais répondre à la petite anecdote et mot de la fin, mais que tu m'avais demandé qui pouvait m'acheter des battes de baseball. Par exemple, là j'ai eu le premier acheteur de l'expo, c'est un brasseur du centre de la France. Donc je crois qu'il avait besoin d'une batte pour touiller son houblon. Une petite anecdote et qui me parle et que j'assume totalement, c'est une expo que j'avais fait pour le GEMA, Journée Européenne des Métiers d'Art à la Griotte, où j'invitais vraiment les gens à regarder mon artisanat, à toucher. Et à un moment donné, il y a une dame musulmane qui arrive voilée. C'était juste après le Covid, donc avec son masque pour pas contaminer les gens ou être contaminé. Donc c'était vraiment un peu atypique comme rencontre. Et puis je la vois, elle est un peu timide. Donc je lui dis, allez-y madame, n'hésitez pas, c'est du bois, c'est fait pour être touché, c'est doux. Donc elle commence à toucher. Et puis en fait, elle voit l'artisanat que c'est, elle voit une batte en chêne avec une petite tête de mort en résine que j'avais fait au bout de cette batte. Et puis elle commence vraiment à bugger dessus de plus en plus et elle me dit « Bon, est-ce que tu peux me faire un petit topo? Pourquoi déjà les deux os de ton petit logo ?» Et donc moi je lui explique que c'est le petit pirate qu'on a tous en nous, endormi, et qu'à un moment donné il faut le réveiller. « Ah d'accord, c'est quoi le pirate ?» Eh ben, les pirates, on va remonter au XVIIIe siècle, l'époque où en fait il y avait des grands marchands, des gouvernements qui trimbalaient de l'or, qui trimbalaient des esclaves, qui trimbalaient des tapis, des richesses dans des bateaux, et que en fait, il y avait les parias de la société qui étaient des gens qui voulaient pas faire l'armée, des gens qui voulaient pas aller dans la marine marchande, des gens qui voulaient vivre librement, des anciens esclaves qui s'étaient échappés et qui en fait ont monté des bateaux et qui ont formé tout ce qui a été la piraterie. Donc qui a été beaucoup, comme aujourd'hui on peut voir dans les médias, de pointer du doigt ces gens-là parce que c'était des grands sanguinaires, des gens qui tuaient, mais oui, sauf que le gouvernement à l'époque aussi tuait, et c'était haut et court pour n'importe quel pirate qui était attrapé. Donc voilà, donc je lui explique tout ça, les flibustiers, les corsaires qui étaient payés par le gouvernement pour aller chasser les pirates. Donc je lui explique, elle me dit « Ouais, j'adore ton univers », d'où aussi Jambe de bois. Et au final, au bout de la discussion, elle me dit « Bon, bah en fait, je vais t'acheter la batte de baseball, je vais t'acheter une assiette et une planche à découper ». Donc moi, je suis là, ok, super, petite question comme ça, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu achètes cette batte ? Elle me dit, bah, pour tout avouer, je suis une femme seule et j'aime bien le camping sauvage. Et du coup, quand je vais faire du camping sauvage, je ne suis pas rassuré, j'ai peur qu'un homme me tombe dessus. Donc je vais t'acheter cette batte pour dissuader le prochain homme qui va m'importuner quand j'irai faire du camping sauvage. Je lui ai dit, écoute, moi, ça me va carrément qu'aujourd'hui, des femmes qui se sentent en insécurité par rapport à des hommes qui sont totalement fêlés puissent avoir une batte et puissent juste faire peur ou se défendre s'il le faut. Je lui ai quand même donné une balle de baseball pour le rappeler que c'était un jeu et qu'il fallait d'abord jouer avant d'être violent. Mais que je suis carrément OK avec ça.
Un morceau de musique pour finir ?
Un petit morceau de musique pour finir ? Qu'est-ce que je vais vous sortir comme morceau de musique ? Il te le faut tout de suite là ou je peux le sortir dans la foulée ? Parce que j'en ai un petit qui va un peu réveiller les oreilles, mais parce que de temps en temps aussi ça a un petit problème ici, c'est que moi j'ai tendance à vraiment quand je travaille, suivant la pièce ou le bois, je mets de la musique. Tout le temps il y a de la musique dans mon atelier, un peu trop forte, donc je m'excuse pour mes voisins voisines. Mais que de temps en temps, le bois, bah, ça va vibrer, ça va taper, et que j'ai besoin d'un morceau de punk, par exemple, qui va tout arracher, ou d'un morceau de techno qui va vraiment être lourd, profond, et qui va aussi impulser. Ou de temps en temps, j'ai juste besoin d'être un peu volatile, et puis un morceau de rocksteady, reggae, qui va te permettre d'être souple, d'avoir une petite courbe parfaite pour tourner ton petit bol. Voilà, c'est cool. Ça, c'est toutes les... Tout est bon à prendre. Mais je te fais tourner un petit morceau dans la foulée.
Les technocrates jactent leur discours politiquement correct. Quand ils passent aux actes, ces libertés s'éjectent. Le marteau du juge tombe, mais c'est des mômes qu'on condamne. Alors qu'à sœur, si Jaco et sa blonde prêtent être en cabane. Une fois à l'Elysée, leurs belles promesses se font la malle. Comme la virginité d'une fille ministre un soir de bal. Réception vasteuse et garden party. Y'a pour le buffet, les portes et corées sont sorties. Ils éradiquent la misère en tenant leurs paupières closes. Tandis que le bras de la justice s'enquilose devant leur bise. Institution pourrie à la base. C'est nous qu'on est de la baise, on y égare des cases, tandis que fument leurs barreaux de chaise. Gagne plus en plus de peuple devant les restos du cœur. Putain, quelle triste époque de laquelle je suis chroniqueur. La France, un pays libre où fisc, proc et flic sont les marques. Et tout ce beau monde réuni quand tu vas max.
T'as tes papiers ?
Hey, tu nous connais ?
Tu me tutoies pas.
Et toi, qu'est-ce que tu fais, toi ?
Moi, je fais que je te tutoie parce que j'ai mon métier de tutoyer la racaille.
Quoi ? Pas, là.
Croyant résoudre leurs problèmes en augmentant les incarcérations. À la dénita policier qui méprise nos générations. Ils bâtissent des prisons, recrutent des matons. Et à la moindre protestation, t'enferment pour rébellion. Tous impliqués d'haut en bas, pas de transparence des comptes en Suisse. Jouissant de la clémence, de la justice de père en fils. Pense à leur dire préféré, la profondeur du silence. À la superficialité de leur jactance dégueulasse. Des palabres anesthésiantes, en guise de poudre aux yeux. Jouant les bons samaritains, car c'est nous la poule aux œufs. J'dors. Et ne te réveille surtout pas, c'est ce qu'ils veulent. Volubile, car je dresse un constat de foutage de gueule. D'un coup... côté une élite qui s'en fout dans la cantine de l'auge le peuple. Se cantonnant à scoltiner les miettes, s'alcoolisant la tête, cotisant pour des retraites anorexiques. Notion de révolte qu'on avorte car Big Brother nous guette. Les murs ont des oreilles et les plafonds les caméras. Y'a des flics par centaines qui augmentent la paranoïa. Y'a trop d'interdictions dans notre panorama, donc j'crie en stéréorama.
Aujourd'hui, vous les jeunes, vous savez plus où vous allez la tête. J'enverrai tout ça à l'armée, mais... À coup de ceinture. Société de merde.
Succession de gouvernements qui magouillent tous en falche. Les poches pleines de fraîches au cas où un juge se fâche. Au resto, ça s'esclave comme une équipe épidace en perme. Et les ardoises tirées par la tignasse, la populace les paye. On reste esclaves de leur changement de direction. Ainsi que d'un patron à qui tu chines une augmentation. Tout ça pour acheter un écran Trinitron et se farcir en boucle à la télé des tripotés de cons. J'aime pas les dictateurs et autres illuminés de mon derche. Quand je les entends parler, je me dis qu'ils tendent des perches à Mister de la Tourette qui sommeille en moi. Et j'insulte mon téléviseur à chaque fois que je les vois. On fait pas la fête le soir du résultat des votes. C'est juste un proxénète au contrôle du ruban d'asphalte sur lequel on marche, comblant leur déficit à la sueur de nos tronches. Turpiné à la race pour finir entre quatre planches. Paye-moi au black, je veux pas cotiser pour le salaire d'un flic qui s'applique à donner à son taf une tournure politique. Qui va suspecter mon pote parce qu'il a atteint un peu trop mat et applique à la lettre les consignes de ses pampans clates.
Eh ben si on lance une pétition pour protester contre les méthodes de l'État, je la signe.
Oui, je le sais, tête de nœud, je viens de l'entendre. C'est ça que je vous raconte
la
justement.
Tête de nœud, c'est celui qui a jamais pigé les paroles de cette chanson de merde.
Il faut croire que j'étais toujours bourré quand je l'entendais.
Ça va.
Là, on est dans la merde. On est dans une vraie merde. On est dans la merde, hein.
J'ai pas compris, dis-le encore.
Merde, on s'est fait baiser à mort.
Tac tac tac.